Vous écoutez Indiscopie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous ou bonsoir si vous êtes par exemple dans votre lit. Nous sommes rendus déjà au 8e épisode d'Indiscopie et oui, le temps passe si vite. Et aujourd'hui, notre invitée est une invitée. Et je vous préviens, on va aborder des thématiques qui peuvent heurter la sensibilité de certains d'entre vous, mais qui à mon sens sont des sujets extrêmement importants. On va parler sexisme, violence sexuelle, discrimination, transidentité, recherche de soi, bref, tout ce dont on n'a pas forcément l'habitude de parler quand on parle jeux vidéo. Notre invitée du jour est donc Aline Bardou et elle m'a fait le plaisir de venir me rencontrer directement chez moi, à Laval. Donc bonjour Aline Bardou.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter succinctement ?
Donc je suis la fondatrice du studio Otherways. J'ai une formation plutôt de développeuse, donc je fais le développement surtout au sein du studio, mais après je fais aussi tout ce qui est la partie gestion.
Oui, c'est toi qui as créé la boîte, c'est ça. Donc t'es un petit peu la tête quoi.
C'est ça.
Bon. Vous êtes combien ?
Alors actuellement on est entre 4 et 5 on va dire. Donc on a une graphiste, une deuxième développeuse, une community manager et on travaille avec un éthologue mais qui travaille quand il y a du travail. Donc c'est
ça dépend du moment du projet.
Voilà, ça dépend du moment, il est pas à temps plein sur la boîte.
Mais il y a beaucoup de femmes du coup.
Eh ben on est 4 femmes et un homme.
Ah. Formidable. Ça fait un peu plaisir. On va pas se mentir, hein. Une boîte où les femmes sont en majorité, c'est assez rare dans ce milieu.
C'est vrai, c'est vrai. C'était pas un choix en plus à chaque fois. C'est vrai qu'au niveau des embauches, on a juste pris la personne qui correspondait le plus au poste et il s'est trouvé que quasiment à chaque fois c'était une femme, donc tant mieux. Bah, après, moi j'ai fait un très très gros effort sur les offres d'emploi où il y a eu une vraie réflexion sur essayer de réduire déjà le nombre de compétences qui étaient demandées. Parce qu'on sait que plus il y a de compétences demandées, moins les femmes, elles osent postuler. On a aussi marqué explicitement sur les offres d'emploi qu'il y avait des valeurs de bienveillance qui étaient obligatoires, des connaissances sur la sphère LGBT, puisque nos jeux parlent beaucoup de thématiques LGBT. Donc forcément, ça a déjà fait un gros tri au départ. Et on a eu pas mal de pourcentages de réponses féminines ou de personnes non-binaires qui ont répondu.
Quel est ton parcours, en fait ? Comment t'es devenue dev, déjà ?
Alors, j'ai un parcours très atypique. Puisqu'au départ, j'étais prof de maths. Donc, je fais des études de maths, alors de maths informatique, pour être exact. J'ai été prof de maths pendant 7 ans. Et en 2014-2015, là, j'ai décidé de me reconvertir dans le dev parce que j'étais un peu en désaccord avec le système d'éducation nationale. Et donc, j'ai repris mes études, j'ai fait un master alors de cryptographie, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le dev, mais... Ça restait entre les maths et l'info, c'était le plus simple pour moi pour reprendre mes études.
Alors cryptographie, c'est quand on craque des codes ou pas ?
Alors c'est les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois le déchiffrer, mais aussi faire du chiffrement, s'assurer que c'est sécurisé et que personne ne peut craquer. Donc moi, c'était plutôt cette partie-là.
D'accord.
Et bon, après, j'ai pas du tout travaillé là-dedans parce que c'était pas mon objectif. Mais du coup, je suis partie au Canada parce que c'était plus facile pour moi de me réorienter dans le dev en n'étant pas en France parce qu'en Canada, ils sont moins regardants sur l'expérience et sur les diplômes. Mmh. Et du coup, j'ai trouvé un boulot assez vite en tant que dev Android. Et donc, j'ai bossé en tant que développeuse mobile pendant un an et demi. Et c'est quand je suis rentrée en France que là, j'ai décidé de travailler dans le jeu vidéo. Et c'était beaucoup plus facile pour travailler dans le jeu vidéo sans expérience de monter sa propre boîte.
Pourtant, c'est une aventure de monter sa boîte. Hein.
C'est une aventure. Je n'avais peut-être pas forcément assez conscience. Après, mon père est déjà chef d'entreprise, qu'il a créé sa boîte aussi. Donc, il y avait un passif familial qui aidait. Il ne faut pas se mentir, quand on a des personnes autour de soi qui ont déjà fait ça, ça fait un peu moins peur.
Ouais. T'as le petit soutien, le petit conseil, les papiers.
C'est ça.
Et les papiers. Donc du coup, retour en France, création de cette boîte, vers quel type de jeu vidéo tu te lances alors ?
Alors, dans un premier temps, on a décidé de ne pas se lancer tout de suite dans le jeu vidéo. On a créé Red Bricks, qui était une plateforme de création communautaire pour le jeu vidéo.
Elle, c'est Oti. Elle leur présente Red Bricks, la plateforme web adaptée à leurs besoins. Grâce à elle, Ils vont pouvoir intégrer le joueur à chaque étape du développement de leur jeu. Ensemble, ils posent les premières briques de leur jeu.
Avec l'idée que nous, on voulait faire du jeu vidéo qui s'orientait plutôt vers le libre. Et on s'est dit que pour financer ce type de jeu vidéo, on avait besoin d'avoir des outils qui nous permettaient de communiquer beaucoup plus facilement avec les joueurs et les joueuses. Et du coup, on s'est dit, avant de créer nos propres jeux, on va créer l'outil dont on a besoin. Donc, on a créé Red Bricks, qu'on a essayé de lancer. Ça n'a pas très, très bien marché parce que, pour plein de raisons.
Environnement ultra concurrentiel aussi.
Oui, puis en vrai, j'avais pas assez de contacts aussi dans le milieu. Ça a été très dur de s'imposer. Puis, ça a été le problème de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que on n'arrive pas à convaincre les studios de mettre leur jeu dessus tant qu'il n'y a pas de joueurs. Et on n'attire pas de joueurs tant qu'il n'y a pas de jeu intéressant dessus. Et donc, c'est là où il aurait fallu qu'on ait beaucoup plus d'argent pour acheter une base de joueurs et pour pouvoir convaincre les studios. Et nous, on a essayé de le faire de manière un peu éthique.
Et Dieu sait que tu as fait de la route pour le promouvoir, ce projet. Parce qu'on s'était déjà vu, du coup, à Montpellier il y a 3 ans.
Il y a...
au moins 3 ans.
Non, un petit peu moins. Parce que la boîte, elle a 2 ans et demi. Donc, ça devait faire 2 ans à peu près.
D'accord. Mais j'ai l'impression que cette année 2020, on en a duré 3. Donc il y a 2 ans, oui, tu faisais beaucoup de route du coup pour promouvoir ça. C'est en veille, c'est en stop, c'est...
Alors là, c'est en pause parce qu'on a créé une association, Ethical Games, pour s'occuper de cette plateforme. On l'a dissocié en fait de notre entreprise parce qu'on s'est rendu compte que le garder dans une entreprise qui était à but lucratif, ça n'avait pas de sens avec une plateforme qui n'était pas là pour faire de l'argent.
Ça brouillait le message.
Voilà. Donc on a fait une association pour ça. En plus, du coup, l'association nous permet d'essayer de créer des labels pour le jeu vidéo, pour mettre la visibilité sur des jeux qui sont créés de manière beaucoup plus responsable, éthique, que ça soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue RH, d'un point de vue message aussi dans les jeux. Et tout ça, ça nous demande beaucoup de temps. En ce moment, j'en ai pas trop, surtout en 2020, ça a été compliqué. Donc, tout ce projet-là s'est mis un petit peu en pause, mais j'espère que 2021 sera un peu plus sympa et qu'on pourra relancer tout ça.
Donc, pas de jeux vidéo au début, et puis vient quand même le temps du premier projet.
C'est ça. Au bout de 6 mois, on s'est dit que on avait quand même envie de lancer notre jeu maintenant que la plateforme était lancée. Alors nous, on est parti sur une stratégie un peu différente de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire qu'on est parti du message qu'on voulait, du thème qu'on voulait aborder dans le jeu vidéo, qui était une thématique LGBT. Et après, on a réfléchi à « Ok, maintenant, on sait de quoi on veut parler, comment est-ce qu'on fait passer ce message, quel type de jeu on fait ?» Parce qu'au départ, on n'avait vraiment aucune idée. Donc au départ, on était parti sur un jeu narratif à embranchement assez classique. Et puis on s'est dit que comme on voulait pas vraiment parler de la thématique, de la vraie thématique, on voulait pas que les joueurs viennent pour ça. On s'est dit ça va pas, un jeu narratif où on n'explique pas de quoi ça parle, ça va pas marcher. Donc on a beaucoup réfléchi et puis d'un coup l'inspiration est venue et c'est ça, sur la route des vacances sans même y réfléchir.
C'est vrai ?
Oui, c'était... Alors, pour la petite histoire, en fait, j'étais effectivement en voiture, j'écoutais Je suis une feuille de Ronan Luce.
Les yeux de mon bourreau qui ne me quitte pas, ma blancheur lui fait peur. Je sais qu'il cherche ses mots. Je suis une feuille.
Et c'était
blanche,
cette histoire d'une feuille qui était un peu vivante et qui rêvait de tenir un avion en papier, de voler, et qui racontait de belles histoires et qui finalement raconte des histoires pas si belles que ça. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait qu'on veut. On veut une feuille qui va raconter l'histoire, qui va prendre différentes formes, qui va se plier, qui va pouvoir avancer et de rester sur quelque chose de très métaphorique aussi pour pas avoir de visuel des personnages, pour pas avoir de problème d'ethnie, de morphologie, de plein de choses.
Problème d'identification.
C'est ça. Et c'est là qu'est né Fall Stories du coup. Donc un jeu qui est principalement avec des origamis où on joue une feuille de papier qui apprend à se plier en différents animaux pour avoir des capacités spéciales et avancer dans le monde et en apprendre plus en fait sur l'histoire qui est racontée dans ce monde-là.
C'est quoi l'histoire alors ? C'est quoi le message ?
Alors le message en lui-même, je veux pas en parler parce que c'est justement ça qu'il faut découvrir. Mais ça nous permet d'aborder en fait plein de thématiques. Parce que finalement, on va suivre la vie de deux protagonistes principaux qui vont être Paul et Chloé. Et au travers de ces deux personnages, on va voir plein de toute leur vie en fait. Donc on va avoir des thématiques qui vont être surtout des problèmes liés à l'adolescence, au fait de grandir, donc avec l'amour, l'amitié. Et puis on va explorer des facettes beaucoup plus sombres sur la dépression, le manque de confiance en soi, le harcèlement, parler un peu d'homosexualité, d'homophobie, voilà, d'explorer plein de choses différentes et de se rendre compte que finalement, ben, sont des personnages comme tout le monde, qui ont une vie avec plein de facettes. Tout n'est pas toujours tout beau, mais tout n'est pas toujours tout noir non plus. Et voilà, et découvrir un petit peu ben, quels sont les liens de ces personnages et quelle est l'histoire derrière.
Bon, on n'en dira pas plus.
C'est ça. Alors du coup, ce premier projet, pour l'instant, il n'est pas arrivé au bout, puisqu'on a juste fait un prototype. On a fait un premier prototype, on a communiqué très très tôt, puisque au bout d'un mois de développement, on a commencé à le montrer aux joueurs pour avoir des retours. On a fait plusieurs salons pour le faire tester, pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Les retours étaient très bons, parce que justement, alors, c'était un prototype vraiment gameplay, il n'y avait pas de graphisme, mais les joueurs ont pu tester les différents changements, différentes formes. Et dans l'ensemble, ils ont trouvé ça très bien. Ils ont trouvé ça très bien aussi qu'on soit sur un jeu en fait, où il n'y a pas de combat. On ne peut pas mourir. Donc on est sur un jeu finalement très onirique, d'exploration, de calme.
On se laisse porter.
C'est ça. Donc ils sont contents d'avoir un jeu qui sorte un petit peu de l'ordinaire, qui soit moins stressant aussi. Bon, à part quelques joueurs évidemment, pour qui bon, il voulait des combats et quelque chose qui speed, il en faut pour tous les goûts, hein. Mais la plupart des joueurs ont vraiment bien accroché. Donc ça nous a motivés à continuer un peu dans ce sens-là. Et là, actuellement, du coup, on a fait un deuxième prototype. Enfin, on a fait le même prototype, mais qu'on a amélioré avec des graphismes, etc. Et pour l'instant, on est à la recherche d'un publisher sur ce jeu-là.
C'est un peu votre gros projet autour duquel gravitent d'autres petites productions ?
C'est exactement ça. C'est un gros projet qui va nous prendre encore bien un an et demi, voire deux ans. Donc du coup, on fait d'autres petits projets à côté pour ne pas s'épuiser, parce que c'est très compliqué de rester longtemps sur le même projet, au niveau même créativité.
Ouais, rester focus sur un seul... Ouais. C'est pas...
Oui, puis on commence par finir par plus aimer son jeu et avoir plus que les défauts. Donc ça, c'est pas très bon. Donc on a décidé voilà, de s'aérer la tête aussi de temps en temps avec d'autres jeux beaucoup plus petits et qu'on peut sortir de manière plus ponctuelle.
Alors comment on s'aère ? Avec quel type de petits projets ?
Alors du coup, on fait à côté une série de jeux qui s'appelle Nuance, qui sont des jeux alors, relativement courts, puisqu'on vise en général des jeux qui vont durer entre 15 et 30 minutes. Donc pas des gros jeux, mais qui vont être sur une thématique bien précise et qui va être une thématique qui va être soit féministe, soit LGBT, soit de manière un peu plus générale d'inclusivité, de diversité, parce qu'éventuellement, on est en discussion pour parler de jeux qui vont parler de handicap, de choses comme ça, de grossophobie, de plein de choses différentes. Et donc là, on a déjà sorti deux jeux et on est en préparation sur le troisième.
Alors, quel est le premier jeu du coup ? Parce que alors, j'ai testé le deuxième, attention, teasing, mais pas le premier du coup.
Donc le premier jeu s'appelle Sweet Love. Alors c'est un platformer minimaliste, puisque c'est en noir et blanc avec des dessins de type stickman, donc bonhomme bâton. Très simple, où on va parler de relations toxiques. Alors c'est un jeu qui d'aspect paraît très simpliste, mais en fait avec un message derrière qui est très très dur. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient fini en larmes en jouant au jeu. Donc je préfère prévenir, c'est un jeu qui peut être compliqué psychologiquement, surtout quand on a vécu des relations abusives ou des relations toxiques, parce que ça parle quand même de harcèlement moral au sein d'un couple, ça parle de viol conjugal, ça parle un petit peu de féminicide.
Ça voilà, peut remuer, quoi.
Ça peut remuer. Donc, c'est un jeu très court, très simple, mais très fort émotionnellement parlant. Ouais.
C'était important de parler de ces thématiques qui sont un petit peu oubliées par le reste de la sphère jeux vidéo.
Ouais, et c'était important pour nous de vraiment aborder ça. Surtout sur Sweet Love, qui me tenait particulièrement à cœur, puisqu'en fait, c'est un jeu autobiographique. Donc, j'ai voulu parler un peu de ma propre histoire. Et ça m'a permis de voir en plus que bah, ma propre histoire finalement faisait écho à beaucoup d'autres histoires malheureusement. Et c'est là qu'on s'est dit que bah, c'était important de parler de tous ces sujets un petit peu oubliés, qu'on a décidé d'en faire une suite de jeux et de parler d'autres sujets qu'on avait tendance à mettre sous le tapis, bah, surtout qu'on a dit qu'on était quatre femmes dans le studio. Donc,
il y a des choses à dire qu'on n'entend pas toujours.
C'est ça. C'est... enfin, surtout qu'on est quatre femmes en plus. Pas que des femmes cisgenres en plus, donc des femmes transgenres aussi. Et on a beaucoup de choses qui nous touchent, d'expériences communes dont on a envie de parler, donc on en profite.
Et donc le deuxième jeu, vas-y reprends une gorgée, ne t'inquiète pas. Le deuxième jeu, Comfortable Burden. Ouais, j'ai un accent incroyable. c'est sur la charge mentale, avec des petites loutres.
C'est ça, A Comfortable Burden, mon accent n'est pas mieux. c'est un jeu qui part du principe de, voilà, on est un jeune couple, on décide de s'installer ensemble. Bah, on est un couple moderne, donc on partage les tâches. L'homme en fait la moitié, la femme en fait la moitié. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mm. Et puis la vie suit son cours, donc la maison grandit, le nombre de choses à faire aussi, et monsieur en fait toujours autant, donc il fait la liste de tâches qu'on lui a donné à faire au début, sans voir que la maison grandit et qu'il y a de plus en plus de tâches à faire, que les enfants arrivent, donc ça rajoute du travail.
Ça aussi, ça sent le vécu.
Ça sent beaucoup le vécu. Y a d'ailleurs une page ressources dans le jeu avec toutes les discussions qu'on a eues pendant la création du jeu et où on a partagé un peu nos expériences et on s'est rendu compte que y a beaucoup de choses qui revenaient souvent. Alors pas toujours, hein, bien évidemment. Hein, y a des couples où c'est l'inverse.
Je plaide coupable.
Ou voir où tout se passe bien et la charge mentale est bien équilibrée. Mais malheureusement, quand même, dans la plupart des cas, c'est comme ça.
Dans les couples hétérosexuels, c'est très souvent la femme qui doit gérer la plus grande partie des tâches
C'est ça. Et même quand elle ne gère pas la plus grande partie des tâches, elle est toujours obligée de dire à l'homme quoi faire. Y a souvent cette petite phrase de « comment je peux t'aider ?» Alors, c'est gentil, hein.
Oui.
Il veut aider, sauf que, a priori, il vit sous le même toit, il voit les mêmes choses. Il serait pas censé aider, il est censé faire sa part. Et on le voit beaucoup avec les enfants, quand les hommes parlent entre eux et qu'ils disent « Oh, moi, j'aime ma femme à s'occuper des enfants. » Bah non, il aide pas sa femme à s'occuper des enfants. Il a fait des enfants avec sa femme et il s'en occupe parce que ce sont les siens. Donc, nous, entre femmes, on dit rarement « moi, j'aide mon mari à s'occuper de ses enfants. » Je m'occupe de mes enfants, point. Donc là, c'est vrai que c'est des petites phrases qui sont pas méchantes et où, quand on le dit, on pense pas à mal, mais qui démontrent quand même qu'il y a un petit problème encore systémique.
Il y a une construction mentale quand même particulière.
C'est ça.
Ce qui est taquin dans ce jeu, c'est que, oui, l'homme a sa liste bien écrite, mais pas la femme. C'est-à-dire qu'on doit se balader dans la maison et voir ce qui n'est pas fait et faire.
C'est ça.
Ce qui est un peu piégeux quand on a oublié d'arroser la plante dans le coin inférieur droit.
Ah oui, la fameuse plante. La fameuse plante qui ne se voit pas bien. L'homme ne l'avait pas vue d'ailleurs, qu'il fallait arroser la plante.
Ah non, elle est en train, le ficus est en train de crever, mais c'est la loutre femelle qui doit arroser. Non, c'était un choix aussi également de game design.
C'était tout à fait un choix. On a eu des commentaires qui nous ont dit ça serait mieux quand même si on pouvait avoir la liste des tâches aussi pour la femme. Ben oui, mais non, en fait. C'est justement le principe du jeu, c'est que non seulement elle ne les voit pas de loin, elle est obligée d'aller chercher les tâches, et en plus, elle n'a pas la liste au départ. Et ce qu'on comprend au fur et à mesure du jeu, c'est qu'en plus, cette liste que l'homme il a au départ... elle sort pas de nulle part. C'est sa compagne qui lui a écrit la liste. Elle est partie le matin et elle lui a dit « Écoute, quand tu rentres du travail, il faut faire ça, ça, ça et ça. » Et au bout de 5 ans, elle est toujours obligée de lui écrire « Il faut faire ça, ça et ça, même si les tâches n'ont pas changé. » Et ça se passe souvent comme ça, malheureusement. Hein. C'est vraiment du vécu.
Alors moi j'ai pas réussi à aller au bout, je sais pas s'il y a un bout au jeu, parce que moi au niveau, au bout de 10 minutes, je suis pas allée assez vite.
Alors, il y a un bout et il y a même un twist dans le jeu. C'est-à-dire que on joue, voilà, on a les 10 premiers niveaux où on joue une fois l'homme qui fait ses 4 tâches, puis la femme qui fait tout le reste. Et puis au 10e niveau, la maison devient très très grande. La pauvre loutre, elle en peut plus. Elle court de partout et malgré tout, elle a pas le temps de faire toutes les tâches dans sa journée. Et donc là, on a une petite animation où on voit notre pauvre loutre le soir en train d'écrire son post-it pour le lendemain, qui s'endort, enfin qui s'écroule, et son mari qui arrive et qui se rend compte que il y a peut-être un problème, il a peut-être abusé. Et du coup, là, on a voulu faire un jeu un peu sympa quand même, enfin optimiste, où Monsieur Loutre comprend le problème et l'organisation change. Et cette fois-ci, on se joue les deux loutres simultanément, donc plus ou moins en même temps. Donc Monsieur commence par faire les tâches qu'il découvre tout seul. Et s'il n'a pas eu le temps de tout faire, c'est Madame qui finit les tâches à faire. Et là, même avec une très grande maison, en s'y mettant à deux et en s'entraidant et en n'ayant pas un qui fait beaucoup plus que l'autre, ils arrivent à passer tous les niveaux de manière correcte.
D'accord. Bon, finalement, c'est un beau message quand même. Aidez-vous, s'il vous plaît.
C'est ça, aidez-vous et vous reposez pas l'un sur l'autre.
Vous avez eu des retours sur ces deux premiers jeux de la collection Nuance ?
Alors, on a eu des retours, beaucoup de retours positifs, quelques retours de gens qui n'ont pas compris, mais... forcément...
On ne peut pas toucher tout le monde.
On ne peut pas toucher tout le monde. Et puis, les gens qui viennent sans comprendre que c'est un jeu à message ne réfléchissent pas toujours et ne comprennent pas toujours le message derrière. Mais dans l'ensemble, ça passe bien. Les gens trouvent que c'est un bon outil pour au moins ouvrir le débat. C'est vrai qu'on en a beaucoup qui ont joué au jeu et qui après, surtout des hommes, qui se sont dit « Je suis allée parler à ma femme pour voir si... si c'était vraiment comme ça chez nous. » Et des fois, je me suis remis un peu en question parce qu'effectivement, elle m'a dit que oui,
je pouvais vider la machine à laver sans lui demander la permission.
C'est ça.
Non, c'est rigolo. C'est rigolo. Et le troisième, ce sera quoi ? Vous savez déjà ou pas ?
Alors, le troisième, oui, il est en cours de préparation. Il va parler, alors là, pour le coup, beaucoup plus LGBT parce qu'il va parler d'homosexualité et un petit peu de prise de confiance en soi et d'ouverture de potentiel. Donc on est sur une jeune femme qui se découvre lesbienne et alors qu'elle est déjà adulte et que elle avait un passif hétérosexuel jusqu'à maintenant sans s'être remise en question en fait sur ses sentiments et qui là d'un coup se dit mais qu'est-ce que j'ai envie d'être, comment j'imagine mon futur. Et qui va explorer un peu toutes les facettes d'elle-même et de ce qu'elle peut devenir si elle a envie.
Alors tous ces jeux, donc s'ils sont en parallèle de votre gros projet, vous mettez combien de temps à les réaliser à peu près ?
Alors c'est très très variable. Le tout premier jeu, il a été très rapide puisque le gros du jeu a été fait en un week-end.
Ah oui !
Donc vraiment très rapide, puis toute seule, puisque là pour le coup c'est moi qui ai fait à la fois les graphismes, le game design, la programmation, il n'y a que le son, enfin la musique du jeu que je n'ai pas fait. Mm-hmm. Le deuxième jeu nous a pris à peu près 3 mois. Alors là, avec une équipe plus grosse, puisqu'on a travaillé on a été en tout 5, mais bon, pas 5 à temps plein non plus, à travailler dessus. Ça a été une production un peu plus grosse. Et là, maintenant, on trouve un rythme de croisière à peu près de 4 mois par jeu, avec en étant 3 en moyenne à travailler dessus à temps plein. Plus ou moins à temps plein.
Est-ce que vous vous sentez un petit peu seule dans vos combats, entre gros guillemets, par rapport à ces messages un peu progressistes ?
Seule, non. Il y a d'autres studios qui sont engagés, alors peut-être pas sur les mêmes thèmes et peut-être pas de la même manière que nous. Après, les jeux qu'on fait trouvent souvent écho en fait autour de nous, donc on n'a pas l'impression d'être seul. C'est souvent très relayé, on a un bon accueil, des gens qui nous disent que ça manque et donc c'est bien. Donc nous, on n'a pas l'impression d'être tout seul dans notre combat et de lutter contre des moulins à vent.
Juste pour revenir sur toi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire du jeu vidéo ?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas trop. En vrai, moi, j'ai toujours eu un ordinateur chez moi, puisque mon père, en fait, était informaticien. Donc, de par son travail, de toute façon, on a toujours eu un ordinateur. Donc, voilà, j'ai plus de 30 ans, mais malgré tout, depuis aussi loin que je me souvienne, il y avait un ordinateur et j'ai toujours eu des jeux auxquels j'ai joué. Pour autant, je ne me suis jamais dit ou imaginé travailler là-dedans. C'est venu vraiment quand j'ai fait ma reconversion, que j'ai voulu faire de la programmation, où je me suis dit, bah, quitte à programmer, je vais faire plutôt des jeux vidéo parce que c'est plus fun.
Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, c'est un super moyen de faire passer des messages ?
Pas du tout. À ce moment-là, moi, je connaissais pas du tout la sphère indé. Donc, tout ce que je connaissais, c'était les AAA. Mon frère, d'ailleurs, travaille à Ubisoft, donc AAA aussi. Donc, j'avais que cette vision-là du jeu vidéo. Et pour le coup, bah, dans les AAA, alors des fois, il y a des messages, mais ça reste quand même très superficiel et pas très engagé, même quand ce sont des messages. Et non, je ne l'ai pas du tout envisagé. Et j'étais moi-même, en fait, pas très engagée encore à l'époque. Et c'est vraiment la vague du MeToo qui déjà m'a fait prendre conscience de tout ce que j'ai vécu. Parce que jusqu'au MeToo, j'avais même jamais pris conscience que j'avais été violée par mon conjoint. C'était quelque chose que j'avais pas...
Conceptualisé,
voilà. Bah, j'avais dit non, il avait quand même fait. Pour moi, bah, c'était mon conjoint, c'était normal, quoi. Donc c'est vrai que... Et c'est après ça où je me suis dit, mais en fait, je commence à ouvrir les yeux, je me dis, mais il y a plein de choses qui vont pas, qui sont pas normales. Et en ouvrant les yeux, je me suis rendu compte de vraiment tout ce qui allait pas. En plus, c'était vraiment la phase où il y a eu les gros dossiers qui sont sortis sur Quantic Dream, sur Eugène System, sur voilà, tous les studios qui faisaient un peu n'importe quoi. Et où je me suis dit, mais non, je veux pas faire ça, moi. Je veux lutter contre ça.
Je veux un environnement de travail sain, s'il vous plaît.
C'est ça, un environnement où on est content de venir, où on peut s'épanouir, où les différences bah, sont appréciées parce que ça permet de faire des jeux différents. Et c'est vraiment là où je me suis dit, bah, en fait, peu à peu, moi, je voulais faire, comme j'avais dit, je voulais faire du jeu vidéo libre, sous licence libre. Et puis finalement, peu à peu, on s'est dit qu'on voulait surtout faire du jeu vidéo engagé. Parce qu'on avait plein de choses à dire et on voulait parler de ces messages-là.
Et puis, l'air de rien, il faut bien en vivre. Donc,
Oui, aussi. Le, c'est sûr que...
L'utopie du jeu vidéo libre, c'est super.
C'est ça. On fera du jeu vidéo libre quand on aura eu beaucoup de succès et qu'on pourra se permettre de libérer le code source de nos jeux qui ont déjà été rentabilisés. Ça reste un objectif à long terme. On utilise des outils libres quand même. On n'utilise pas Unity pour faire nos jeux, on utilise Godot Engine qui est un moteur de jeu libre. On utilise Blender pour tout ce qui est nos modélisations. Donc on utilise des outils libres déjà, c'est déjà le premier pas. Pour montrer que ben, on peut faire des jeux de qualité aussi avec des outils qui sont libres. Et puis la deuxième étape, ça sera de pouvoir proposer nos jeux. Alors Sweet Love est déjà sous licence libre, le code est disponible sur Internet. Et nos prochains jeux, on espère pouvoir aussi libérer le code source après.
Est-ce que tu aurais un message à faire passer, par exemple, aux jeunes gens qui voudraient se lancer dans ce monde-là et qui ont aussi plein de messages à faire passer ?
Alors, je dirais le premier conseil, c'est de ne rester pas seul, parce que c'est un monde qui est très dur, qui est très ingrat, et où on a très vite fait de se dire qu'on est nul, qu'on ne vaut rien, et que ce qu'on fait, ça ne vaut pas le coup. Donc c'est très important d'arriver à avoir du réseau, arriver à avoir des gens qui pensent un peu comme nous pour pas déprimer en fait seul dans son coin. Après, bah, si on a envie, tout le monde est capable de le faire aujourd'hui, de se lancer là-dedans et voilà, faut juste s'accrocher. C'est très dur. Il y a beaucoup d'échecs pour le peu de succès qu'on voit passer. Donc ça remet pas en question ses propres compétences, mais il faut aussi de la chance. Mais par contre, c'est important qu'il y ait beaucoup plus de diversité dans les studios de jeux vidéo. Donc c'est important, si on a des messages, qu'on est différent, que ce soit par son ethnie, par son genre, par son orientation sexuelle, par sa religion, par son milieu social aussi. Parce que malheureusement, dans les studios de jeux vidéo aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui viennent de milieux favorisés, voire très favorisés.
C'est l'effet école privée.
C'est l'effet école privée. Les écoles de jeux vidéo coûtent très très cher, alors que ce n'est pas une obligation pour faire du jeu vidéo. Et c'est vrai que ça manque de gens qui ont des parcours différents, qui ont des expériences de vie différentes. Donc c'est important de s'accrocher quand quand on sort un petit peu du moule.
T'as vécu des moments compliqués où on a pu remettre en question et tes compétences et ton parcours de vie, par exemple ?
Alors, oui, à peu près tous les jours.
À ce point-là ?
Ça a été très compliqué déjà au début, sur les recherches de financement, parce que déjà, je suis développeuse, il n'y en a pas beaucoup. Quand je suis allée...
Et c'est pas une force, ça ?
Ben non. Quand je suis allée voir les banquiers, déjà, on m'a demandé qui c'est qui développait dans le studio. Et on m'a posé des fois la question 3 ou 4 fois avant que la personne comprenne que c'était moi. Pour finalement me refuser tous les prêts parce que bon, déjà, le jeu vidéo, c'est risqué. Mais en plus, si c'est une femme...
Elle doit pas savoir de quoi elle parle.
Ben ouais, c'est ça. si c'est pour faire les Sims ou Animal Crossing... Donc, bien que j'ai rien contre ces jeux-là, hein, mais...
Non, mais c'est voilà, cliché.
C'est très stéréotypé. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué, en plus, en arrivant dans le monde du jeu indé, sans connaître le monde du jeu vidéo indé, où j'ai fait des erreurs, etc., et où parfois, c'était compliqué. Après, même en dehors d'être une femme, il y a de toute façon toujours des moments désespérants où on ne trouve pas de publisher, on ne trouve pas de sous, les subventions nous sont refusées, les fins de mois, on ne sait pas comment faire. Et puis, quand à côté de ça, moi j'ai 2 enfants, on rentre de notre journée, on est épuisé, on a encore des trucs à faire, et puis il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper des courses, il faut s'occuper du repas. On a notre 2e journée qui commence derrière la journée de travail et c'est dur, le confinement a été très dur aussi.
Oui, l'année 2020 a été compliquée.
L'année 2020 était très compliquée. Et en plus, quand on en discute avec des hommes qui sont dirigeants de studios de jeux vidéo et qui ont des enfants, ils ne comprennent pas cette différence. Parce qu'ils disent, mais le plus important, c'est d'arriver à se préserver des plages pour soi. Ben oui.
On aimerait bien.
Je veux, mais comment je fais? Donc voilà, en plus moi je me suis séparée de mon mari, donc là quand j'ai les enfants, je suis toute seule pour m'en occuper, donc voilà, il y a beaucoup de choses très compliquées qui s'ajoutent, mais à côté de ça, il y a beaucoup de moments aussi très réjouissants, hein. C'est pas une longue dépression, c'est sortir un jeu, avoir des gens qui comprennent, des bonnes revues de presse, des retours de joueurs, plein de choses qui sont gratifiantes et qui sont valorisantes aussi.
Oui, ça doit être ultra valorisant de sortir son bébé, quoi, son jeu en fait.
C'est ça, ouais, c'est vraiment un sentiment où on a sué sang et eau, mais il est là et en plus, y a des gens qui le trouvent bien.
Oui.
Ça, c'est cool.
ça, c'est clair, parce que le nombre de jeux qui sortent dans l'anonymat et qui n'ont pas de retour... Vos jeux, ils n'ont pas une audience énorme, on ne va pas mentir. En revanche, je pense qu'il y a un retour, je pose la question, il y a un retour qui est peut-être plus important, d'autant que le message est engagé.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas beaucoup, beaucoup de ventes, pour ne pas dire très peu de ventes, mais les gens qui y jouent, souvent, ont envie de nous faire un retour. Donc, nous contactent, nous envoient un mail, nous disent sur les réseaux sociaux... Et donc, je pense que par rapport à d'autres jeux qui se vendent comme les nôtres, mais qui sont beaucoup plus... Alors, j'ai pas envie de dire lisses, mais qui n'ont pas de message juste derrière, qui sont très bien, mais au niveau du gameplay, et il faut aussi des jeux de ce type-là, les joueurs se sentent moins l'envie de contacter le développeur pour dire...
Ils sont moins investis, peut-être.
Voilà, c'est ça. Ils sentent moins une connexion et des valeurs communes avec la personne qui a fait le jeu.
Est-ce que, avant de te laisser, est-ce que tu penses que des assos comme Women in Games, Afro Gamers, elles ont du pouvoir, hein, elles ont les moyens de faire un petit peu changer le microcosme ou...
Alors oui, bien sûr, et heureusement. Et Women in Games, ça a 3 ans maintenant, quasiment, et on a vu beaucoup de changements. beaucoup plus de visibilité des femmes. Rien que, en fait, dans les événements professionnels, quand il y a des conférences, bah, c'est grâce à elles qu'il y a beaucoup plus de,
d'intervenantes.
Là-dessus, elles sont vraiment très, très efficaces. Et donc, ça permet, bah, petit à petit, de faire changer. Moi, j'ai vu, là, depuis un an ou deux, beaucoup de studios qui étaient exclusivement masculins, qui sont maintenant à 40% de femmes dans leurs équipes. Et je pense que ça vient, bah, d'une prise de conscience globale, mais qui a été poussée notamment par toutes ces associations-là, et heureusement qu'elles existent, et nous, on les soutient fortement dans ce travail.
T'as joué aux jeux vidéo dès ton plus jeune âge ou pas ?
D'aussi loin que je me souvienne. Alors, le premier jeu dont je me souviens, c'est Prince of Persia. Premier du nom, évidemment, hein. Mais je pense que j'en ai fait avant, mais j'étais juste trop jeune pour m'en souvenir. Ma sœur me parle beaucoup de Conan le Barbare, donc sans doute que j'y ai joué, mais voilà, c'est à un âge où j'ai même pas capacité de m'en souvenir, donc vraiment depuis mon plus jeune âge.
Qu'est-ce qui t'a marqué comme titre ?
Alors moi, j'ai un amour profond pour tous les jeux de gestion.
Ah ouais.
Tous les jeux qui sont de l'ordre de Theme Hospital, Dungeon Keeper. C'est vraiment mes jeux, des jeux que je rejoue encore. En fait, je fais beaucoup de rétro gaming. Zeus, le maître de l'Olympe. Déjà beaucoup plus vieux, mais beaucoup de point and click aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé toute cette période de Grim Fandango. La Merzone, enfin des jeux, voilà. Beaucoup.
Donc t'es pas très jeu moderne, jeu contemporain.
Je suis pas très jeu contemporain. J'avoue que j'ai un problème avec les jeux contemporains, notamment sur le niveau de difficulté. J'ai l'impression que les jeux d'aujourd'hui, pour beaucoup, sont très casuals et où on prend beaucoup les joueurs par la main. Et notamment sur les derniers point and click qui sont sortis, moi, d'avoir les zones en surbrillance avec des grosses flèches qui disent « Hey, clique ici !»
C'est par là.
Et ça m'énerve un peu. J'essaye toujours de désactiver toutes ces options-là d'aide. Moi, j'ai... Bon, après, moi, je suis de la vieille époque où déjà Internet n'existait pas, où du coup, j'avais pas les solutions, où je suis restée des fois bloquée pendant un mois parce que la souris, elle change pas. Tu sais, c'était les vieux point and click, oui. Où ta souris, elle a toujours le même aspect, même quand tu peux cliquer. Et du coup, t'avais pas vu dans le décor cette petite balle de baseball coincée derrière le livre. Et t'y es resté un mois à cliquer frénétiquement sur tous les écrans. Alors bon, c'était peut-être un peu trop, mais j'ai cette nostalgie de réfléchir, de rester bloquée, d'avoir un peu cette frustration. Et maintenant, je suis bloquée, je vais sur Internet, j'ai la soluce, c'est la solution de facilité, je trouve ça un peu dommage. Donc c'est vrai que j'aime bien tous ces jeux un peu durs, où, alors pas stressants, parce que pour le coup, j'aime pas les jeux où on peut perdre, donc j'aime pas tous les jeux de combat, les jeux... Voilà, c'est même les jeux de stratégie, quand il y a de la guerre, tout ça, j'ai un peu de mal. Mais j'aime malgré tout quand il y a du challenge.
Tu connaissais pas la sphère indé quand t'as commencé. Maintenant, tu la côtoies beaucoup plus. Est-ce que t'as des petites pépites à partager ? Est-ce que tu joues un peu aux autres jeux indés ?
Alors, je joue un peu aux autres jeux indés, pas assez, parce que j'ai une vie beaucoup trop chargée pour avoir le temps de jouer. Mon temps de jeu doit être d'à peu près 10 minutes par semaine.
Oh !
Donc, je ne peux pas faire grand-chose.
Les cordonniers les plus mal chaussés.
Du coup, je ne suis pas très, très bonne là-dedans. J'ai Shelter de Might and Delight, que j'ai beaucoup aimé. Euh, qui m'a rendu très très triste. Donc, parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où on incarne. Alors moi j'ai fait le 2, donc on incarne une maman lynx qui a une portée de 4 bébés. Et qui va devoir les aider à survivre en explorant le monde, donc les protéger des prédateurs, leur trouver à manger. Et quand j'ai perdu mon premier bébé lynx, ça a été très très dur psychologiquement. Non. Il a été mangé par des loups. Et j'ai perdu mon deuxième bébé lynx, ça a été encore plus dur parce qu'il est mort de faim. Et je l'ai vu s'affaiblir. Je suis allée lui chercher des lapins que j'ai posés devant lui. Après, il s'est mis à neiger, je l'ai porté pour qu'il reprenne des forces. Et il est mort enseveli sous la neige. Et c'était horrible. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a rien. Il n'y a pas de texte. Et ça, tu ressens, en plus je suis maman, de sentir ton bébé où tu ne peux plus rien faire pour l'aider. C'est la dure vie sauvage. Ah, c'était horrible. Mais super jeu.
Mais à part ça, c'est super.
Que j'arrive plus à relancer. Mais super jeu, il est vraiment très bien. Letis, Pass of Progress de Studio Triskel. Qui est un jeu de City Builder Old School, exactement comme Zeus, le maître de l'Olympe. Du coup que j'ai adoré parce que j'ai retrouvé mes jeux de rétro gaming sur un jeu que je ne connaissais pas, donc c'était je rêvais de ça. Malheureusement j'ai peu de jeux à message que j'ai fait. Forcément Gris.
Ah oui.
Gris, qui est très très beau, qui était une grosse source d'inspiration pour Folk Stories, parce que c'est un jeu avec un message très très fort, et pourtant il n'y a aussi aucune ligne de dialogue, c'est que par le musique, le chant et le gameplay que ça t'arrive à te montrer toute cette émotion là, et il est vraiment très très bien fait, donc oui, il y a quelques jeux, après je suis sûre qu'il y en a des centaines d'autres auxquels j'ai pas réussi à jouer, mais qui sont au moins tout aussi bien. Les AAA, ils ont des objectifs de rentabilité derrière qui les empêchent de prendre des risques ou d'aborder des sujets trop politiques, ce que l'indé n'a pas. Donc ça permet de tester de nouveaux gameplays, ça permet de partir sur des jeux beaucoup plus engagés. Et c'est évident qu'un AAA peut pas se permettre ce que nous, en tant que studio indé, on peut se permettre. Et c'est ça qui fait toute la richesse. Alors des fois c'est pas réussi, hein. Des fois il y a des expériences qui sont ratées évidemment, mais oui, la richesse des jeux indés c'est quelque chose d'exceptionnel, et c'est dommage que ça soit pas plus connu.
Finalement le message c'est permettez-vous,
complètement, essayez des choses et testez.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite?
De trouver des sous pour faire nos jeux.
Merci beaucoup Aline.
Ben merci pour l'interview.
Et je te libère.
Merci beaucoup donc à Aline Bardou d'être venue toquer à ma porte. Vous pouvez retrouver la démo de Fold Stories directement sur Itch.io ou en passant par le lien du site d'Autorways que je mets en description de ce podcast. Vous y trouverez aussi toutes les infos sur les jeux du triptyque Nuance, donc Sweet Love et A Comfortable Burden. Pour Sweet Love, 100% des bénéfices sont reversés à l'association Women in Games. Pour A Comfortable Burden, je sais, vous adorez mon accent, c'est 50% des bénéfices qui sont reversés. Il est temps pour moi de vous dire à très bientôt. La prochaine fois, nous serons avec Paul Vaillé, qui est venu lui aussi toquer à ma porte. Décidément, ces Bretons sont bien conviviaux. À très vite. Une scopie.